Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour vous présenter ce journal de la Radio des Nations Unies. Au menu, les casques bleus de la mission en Centrafrique, de nouveau accusés d'abus sexuels. L'ONU se félicite de la libération de deux travailleurs humanitaires en Libye. Le chef des casques bleus en RDC quitte ses fonctions. Journée mondiale sur la pneumonie. La mortalité maternelle baisse de plus de 40%. En dossier, le Bureau des droits de l'homme dépêche une équipe au Burundi. Enfin, présentation des bilans et défis de l'UNRWA. Les casques bleus de la MINUSCA, la mission des Nations Unies en République centrafricaine, font à nouveau l'objet d'accusations d'abus sexuels. Une affaire que la mission a appris avec tristesse mercredi. Elle la prend très sérieusement et a dépêché dès jeudi une équipe multidisciplinaire, dont fait notamment partie le commandant de la force, pour enquêter sur ces faits, sensibiliser les troupes impliquées et prendre des mesures préventives et disciplinaires. La MINUSCA, qui cherche à appliquer la politique de tolérance zéro, Vladimir Monteiro, et porte-parole de la mission.
Concernant les troupes pour toutes les missions, la question disciplinaire des troupes, la question de justice est gérée par les pays contributeurs, n'est-ce pas ? Mais il y a cette détermination, cette volonté déjà de l'organisation de faire en sorte que des enquêtes soient menées le plus rapidement possible, qu'elles fassent toute la lumière sur ces faits, ces comportements qui ne font que ternir l'image de l'organisation. Or, la MINUSCA en Centrafrique a une mission noble qui est celle de protéger la population, quelque chose que la plupart des soldats font quotidiennement au prix de leur vie.
Le coordonnateur humanitaire pour la Libye, Ali Al-Zatari, a salué la libération samedi de deux travailleurs humanitaires retenus en captivité depuis 5 mois. Ali Al-Zatari a fait part de sa reconnaissance à tous ceux qui ont appuyé la libération des deux hommes qui travaillent pour l'organisation caritative Sheikh Tahir Zawi, un partenaire de plusieurs agences humanitaires internationales. Le point avec Isabelle Dupuis.
Mohamed Al-Mansaf Ali Al-Shahal Ali et Walid Ramadan Salhoub étaient en train de livrer de l'aide humanitaire dans le sud-ouest de la Libye lorsqu'ils ont été enlevés le 5 juin à Al-Shouarif. Le coordonnateur humanitaire pour la Libye s'est félicité du fait que ces deux travailleurs humanitaires aient pu retrouver leur famille sains et saufs après leur libération le 7 novembre. Ali Al-Zatari a souligné que l'aide humanitaire doit pouvoir être acheminée en toute sécurité dans l'ensemble du pays. Il a d'ailleurs affirmé que la livraison d'une aide vitale à tous ceux qui sont dans le besoin est une cause noble qui doit être protégée et mise à l'abri de tout différent. Le coordonnateur humanitaire a aussi rappelé que la prise d'otages et les attaques délibérément dirigées contre le personnel civil qui participe à des opérations humanitaires sont considérées comme des crimes de guerre. Ali Al-Zatari a aussi exhorté les communautés qui font face à des situations similaires à s'efforcer d'obtenir la libération de toutes les personnes détenues illégalement.
En République démocratique du Congo, le général Carlos Alberto dos Santos Cruz quitte la MONUSCO après 2 ans et demi passés à la tête des troupes onusiennes. L'officier supérieur brésilien dit quitter ce pays avec un double sentiment de frustration et de satisfaction pour l'action des casques bleus en faveur de l'avènement d'une paix durable en RDC. Des propos tenus devant les journalistes à Kinshasa au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la mission.
Je pars de la mission avec beaucoup de frustration pour n'avoir pas été en mesure de faire plus pour le peuple congolais. C'était la frustration et la souffrance des populations qui me motivaient au quotidien. La seule motivation d'être ici était la volonté d'aider les plus vulnérables contre les bandits et les bandes de criminels appelés groupes armés. La réalisation, comment c'est la grande réalisation? La défaite de 23, c'est la grande réalisation. Goma, ce moment, c'est visible pour nous et c'est possible de voir tous les jours le développement. Le retour de le peuple à Pinga, 30 000 personnes, 25 000 personnes.
La pneumonie a tué plus de 900 000 enfants de moins de 5 ans en 2015. C'est ce que signale l'Organisation mondiale de la santé en ce 12 novembre, journée mondiale de la pneumonie. La pneumonie est la principale cause de décès chez les enfants. Elle affecte les enfants et familles partout dans le monde, mais c'est dans les régions de l'Asie du Sud et de l'Afrique subsaharienne qu'elle est la plus présente. Le but de la journée est de sensibiliser et d'assurer le plaidoyer pour la lutte contre la pneumonie et d'autres maladies infantiles. Le point avec Fadela Chaïb, porte-parole de l'OMS.
La pneumonie est la principale cause infectieuse de mortalité de l'enfant dans le monde. On estime que plus de 900 000 enfants de moins de 5 ans sont morts de pneumonie en 2013, tout en sachant que c'est vraiment une maladie qu'on peut prévenir si on prend les mesures de prévention nécessaires. On peut prévenir la maladie par la vaccination. Il faut également améliorer le statut nutritionnel des enfants. Un des moyens de prévention de la pneumonie, c'est vraiment l'allaitement au sein. Ça donne à l'enfant des défenses immunitaires, une force pour combattre les causes de la pneumonie.
La mortalité maternelle a chuté de 44% depuis 1990. C'est ce qu'affirme le rapport conjoint d'agences de l'ONU et de la Banque mondiale sur la question, publié ce jeudi. Le ratio global de mortalité maternelle est actuellement de 216 pour 100 000 naissances, contre 385 pour 100 000 naissances il y a 25 ans. Alpha Diallo.
Il s'agit de progrès importants sur la santé des femmes avec ces dernières données qui montrent une tendance à la baisse du taux de mortalité maternelle dans le monde. Selon les chiffres publiés ce jeudi à Genève, la mortalité maternelle a été pratiquement divisée par deux en 25 ans. Elle est ainsi passée de 532 000 décès en 1990 à 303 000 cette année. Les Nations Unies et la Banque mondiale rappellent que la région de l'Asie de l'Est a enregistré les plus fortes avancées avec une réduction de 72%. Mais au final, seuls 9 pays sont parvenus à atteindre l'objectif fixé par l'ONU pour une réduction des 3 quarts de la mortalité maternelle. Il s'agit du Bhoutan, Cap-Vert, Cambodge, Iran, Laos, Maldives, Mongolie, Timor-Oriental et Rwanda. Ce qui montre que ces progrès sont inégaux et l'Afrique subsaharienne reste la région la plus touchée avec 2 décès sur 3 répertoriés dans le monde. Mais l'Organisation mondiale de la santé note tout de même un net recul ces 25 dernières années. Le ratio de mortalité maternelle en Afrique subsaharienne est ainsi passé de 987 décès de femmes à 546 décès pour 100 000 naissances, soit une baisse de 45%. Mais le nouvel objectif pour le développement durable fixé en septembre dernier par l'ONU pour 2030 vise à atteindre un ratio de moins de 70 décès de femmes pour 100 000 naissances. Alpha Diallo, Genève, pour la Radio des Nations Unies.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité, une équipe du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme est attendue ce week-end à Bujumbura. Cette mission intervient alors que le Conseil de sécurité se réunit de nouveau ce jeudi sur le Burundi et que les Nations Unies continuent de tirer la sonnette d'alarme face à l'escalade de la violence. Ces derniers jours, les plus hauts responsables onusiens ont dénoncé l'augmentation des assassinats, des actes de torture et des arrestations arbitraires dans ce pays. Pour en savoir plus, Alpha Diallo a tendu son micro à Scott Campbell, chef de la section Afrique de l'Ouest et Centrale au Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme.
On peut parler d'une dimension qui est plus inquiétante, notamment une augmentation en termes de violations de droits de l'homme. Nous avons noté une augmentation en termes de violations de droits à la vie, des arrestations arbitraires, des cas de torture, etc. Donc c'est une tendance qui est très inquiétante, qui est négative. Et en plus, nous ne voyons pas encore un vrai dialogue pour trouver une solution politique à ce problème. À ces deux éléments, j'ajouterai l'élément de l'impunité. Et pour toutes les violations de droits de l'homme qu'on a notées sur le terrain, il n'y a pas eu des enquêtes pour traduire les responsables en justice.
Quelles sont les dernières données que vous avez au sujet des mouvements de population et surtout du nombre de victimes?
Il y a 280 000 personnes qui ont dû quitter leur maison. Il y a à peu près 200 000 qui se trouvent en tant que réfugiés dans les pays voisins, c'est-à-dire la Tanzanie, la RDC et le Rwanda. Et à ce chiffre, on peut ajouter 80 000 qui se trouvent déplacés sur le plan interne.
Et vous avez un chiffre par rapport au nombre de morts depuis le mois d'avril?
Nous avons documenté 252 cas des personnes qui ont perdu leur vie grâce aux exécutions extrajudiciaires depuis le mois d'avril.
Alors vous, personnellement, vous vous rendez le week-end à Bujumbura. Comptez-vous rencontrer les autorités burundaises? Et quel serait le message du haut-commissaire Zeid aux autorités de Bujumbura?
Le message du haut-commissaire, effectivement, c'est un message qu'il a passé lors de sa dernière visite à Bujumbura. Il a beaucoup insisté sur le désarmement de tout le monde, mais en premier lieu, la milice Imbonerakure, qui continue à commettre les violations des droits de l'homme en complice très souvent avec la police. Donc certainement, il y a besoin de répéter cet appel au désarmement. Qu'il y ait des enquêtes judiciaires indépendantes pour traduire devant la justice ceux qui sont responsables pour les actes de violence et les violations des droits de l'homme. Et troisièmement, qu'il y ait un dialogue inclusif pendant lequel tous les Burundais pourraient parler et trouver une solution politique à cette crise qui pourrait, et rapidement, nous craignons, prendre d'autres dimensions.
Tout à l'heure, vous avez parlé de lutte contre l'impunité, mais comment réagissez-vous par rapport à ces dernières déclarations de hauts responsables burundais, dont le président du Sénat, et certains considèrent ces déclarations comme des incitations à la haine? Est-ce que vous partagez cet avis?
Mais certainement, commençant avec le secrétaire général des Nations Unies qui s'est prononcé très clairement là-dessus le 6 novembre, en notant que ce genre de propos est extrêmement dangereux, et surtout dans le contexte actuel au Burundi. Et le commissaire aux droits de l'homme, devant le Conseil de sécurité, a tiré encore la sonnette d'alarme en disant que c'est ce genre de discours que nous avons entendu il y a une vingtaine d'années dans le contexte rwandais avec les résultats catastrophiques. Et je pense que c'est essentiel que ça cesse immédiatement.
Et y a-t-il des risques que cette crise politique se transforme en une guerre civile ou bien ne devienne un conflit ethnique?
Je pense qu'il y a toujours un risque que ça se dégrade, notamment lorsqu'il n'y a pas un vrai dialogue inclusif pendant lequel tout le monde peut s'exprimer et dans un contexte de sécurité. Donc là, vous avez une formule qui est très, très dangereuse et qui pourrait effectivement nous mener à une guerre plus large, une guerre interne aux conséquences extrêmement graves.
Cette semaine, au siège des Nations Unies, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, dans le Proche-Orient, l'UNRWA, est venu présenter son bilan pour l'année 2014. Durant cet inventaire, l'agence a également mentionné les difficultés budgétaires extrêmes qui, en 2015, ont failli annuler la rentrée des classes de 500 000 enfants palestiniens. Richard Wright est le directeur du bureau de l'UNRWA à New York. Au micro de Tsige Schifferau, il évoque les priorités et l'impact des difficultés sur le terrain.
Comment UNRWA peut continuer ses activités en face de toute une série de problèmes financiers, des crises même dans tous nos pays d'activité? Le commissaire général a décidé de mettre l'accent sur l'éducation et les besoins, la nécessité de continuer à tout prix nos activités dans ce domaine. Donc l'éducation, c'est un droit de chaque enfant. Presque à la dernière minute, on a trouvé les fonds nécessaires. Cette situation a vraiment déstabilisé toute la communauté palestinienne.
Ce montant vous aide jusqu'à quand?
Jusqu'à la fin de cette année. On a comblé les lacunes dans le bilan financier jusqu'à la fin de l'année. En contrepartie, on a pris toute une série de mesures internes. Par exemple, on a coupé 85% des contrats avec nos consultants. On a prévu éventuellement une augmentation du nombre d'enfants par classe dans les écoles. Et on a prévu également la possibilité d'un paquet de compensation pour certains employés qui voulaient quitter l'agence d'une manière prématurée.
Comment la situation politique affecte le travail de l'agence sur le terrain?
Si on prend la situation en Syrie, avant le conflit, 550 000 réfugiés palestiniens étaient enregistrés avec l'agence. Maintenant, on estime qu'il y a à peu près 420 000, 430 000. Mais presque tous ces réfugiés palestiniens maintenant ont besoin de notre aide. Tandis qu'il y a 5 ans, presque personne n'avait besoin de notre aide. La situation économique à Gaza, à cause principalement du blocus catastrophique, on a un taux de chômage de 42%. C'est le niveau de chômage le plus élevé dans le monde. Et les chiffres pour des jeunes sont encore plus élevés. UNRWA a fourni une aide alimentaire à 80 000 personnes il y a 15 ans. Cette année, on sera obligé de fournir une aide élémentaire de 890 000 personnes, 11 fois de plus. Pourquoi? Ben c'est à cause de la situation dans la région, le blocus, etc. Les filles également en Jordanie, donc en Cisjordanie et au Liban sont différentes, mais également on est vraiment donc en face d'une situation très difficile à gérer. Et à un moment où les contributions des donateurs augmentent, mais pas d'une manière suffisante pour compenser les besoins qui sont en pleine croissance. Il faut trouver des mesures pour à la fois répondre aux besoins, d'être plus efficace, mais également d'insister sur un soutien adéquat de la part de nos donateurs. Voilà les 3 défis devant nous.
Et possiblement aussi une solution politique à long terme.
C'est ça qui manque. Il faut le dire, aujourd'hui, on n'est pas proche. Et donc, notre agence doit continuer et on demande le soutien de tous nos partenaires pour que l'on puisse accomplir notre mandat qui reste en vigueur. Et on continue. UNRWA doit fournir les services, surtout l'éducation, santé, services sociaux, services pour les plus pauvres, jusqu'à ce qu'une solution politique se trouve.
Et c'est avec Richard Wright que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.